Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
En hiver, des milliers de personnes sont victimes d'une intoxication en monoxyde de carbone. Ce gaz, difficile à détecter car sans odeur et invisible, peut vite se révéler mortel s'il est inhalé. En France, c'est la première cause de décès par intoxication accidentelle. Chaque année, ce gaz toxique est responsable d'une centaine de décès en France. Des gestes simples contribuent pourtant à réduire les risques. Alors, quels sont les symptômes d'une intoxication en monoxyde de carbone? Comment éviter les risques d'intoxication? Nous allons donc en parler avec nos invités. Avec nous sur le plateau d'Africa Radio, Agnès Verrier, elle est chargée d'expertise en santé et environnement à Santé publique France. Et nous rejoint au téléphone de la radio africaine le docteur Jérôme Langrand, il est chef de service au CHU Lariboisière Fernand Hudal et au centre antipoison de Paris. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout d'abord, nous allons retrouver un sujet tourné dans les rues de la capitale. On le disait tout à l'heure, une centaine de décès en moyenne par an. L'intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de mortalité en France pour les accidents domestiques. En 2017, 3352 intoxications et accidents dus à ce gaz toxique ont été enregistrés. 50% de ces intoxications sont même d'ailleurs causées par la chaudière et pourtant les personnes ne sont pas forcément au courant. Et c'est Carole Gallois qui est partie à la rencontre des personnes dans les rues de la capitale. On écoute, on se retrouve juste après avec nos invités.
Connaissez-vous les dégâts du monoxyde de carbone pour les accidents domestiques?
Pas du tout. Pas du tout.
Et il provient d'une combustion incomplète des organes biologiques, des matières biologiques. Ce monoxyde est friand de l'oxygène. En fait, ça diminue la concentration de l'oxygène dans le sang.
C'est nocif pour la santé déjà.
Les dégâts, non, pas du tout. Je ne connais pas les dégâts.
Ouais. Et quels sont les premiers signes, justement, pour le monoxyde de carbone, les personnes qui seraient intoxiquées?
La personne qui est bloquée, qui n'arrive pas à respirer correctement, des toux peut-être, il me semble.
En termes de signes, d'abord, le tout premier signe, c'est souvent les céphalées. Donc on a des maux de tête. Et puis vient les douleurs abdominales. Et puis c'est vraiment fugace. Tout de suite, on peut même avoir des vomissements. Et on tombe dans les pommes.
Est-ce que vous révisez vos appareils de chauffage?
Oui, dans le cadre du logement social. Ils font des révisions, je crois, une fois par an.
En Afrique, chez moi, en RDC, je connais des personnes qui ont été malheureusement fauchées à jeune âge à cause du monoxyde de carbone lié tout simplement au groupe électrogène qui n'a pas été très bien installé, ainsi de suite.
Les chaudières, notamment à gaz, qui sont concernées par cette problématique, sont censées être révisées tous les ans, et la mienne est révisée à cette fréquence-là, évidemment.
Si je vous dis que l'intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de mortalité en France pour les accidents domestiques, est-ce que ça vous choque? Est-ce qu'au contraire, ça ne vous surprend pas?
Non, bah, ça me choque, ouais, dans le sens où on ne nous dit pas tout.
Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des décès causés par le monoxyde de carbone tellement il est discret mais très dangereux.
Ça peut me choquer dans le sens que nous sommes quand même dans un pays développé. Il faut une grande sensibilisation pour que les gens prennent conscience.
Ça me choque parce que je pensais qu'en fait ce problème était résolu depuis longtemps. Surtout que les logements en fait insalubres devaient être signalés. Mais oui, ça m'étonne parce que je pensais que c'était résolu depuis un moment.
Alors on voit bien qu'une partie des personnes interrogées connaît le monoxyde de carbone. Alors justement, on va commencer avec vous, docteur Jérôme Langrand. Au début, il y a une personne qui a dit ça vient d'une combustion incomplète des matières biologiques. Il y a une autre personne qui dit ça diminue la concentration de l'oxygène dans le sang. Alors qu'est-ce que le monoxyde de carbone et en quoi est-il dangereux, docteur? Bonjour.
Oui, bonjour, merci. Donc effectivement, c'est un gaz, le monoxyde de carbone, qui est produit par la combustion de matières organiques. Alors, ça veut dire n'importe quoi, ça peut être du gaz, du charbon, du bois, du pétrole, enfin quelque chose d'organique. Et dès qu'on si la combustion n'est pas parfaite, et ben, c'est toujours le cas, et particulièrement quand il y a des chaudières encrassées par exemple, et ben, il y a du monoxyde de carbone qui se dégage, qui est un gaz incolore, inodore, ça pique pas, donc on ne le sent pas. Et effectivement, ce gaz a le défaut de prendre la place de l'oxygène dans le sang. Et du coup, donner un problème d'oxygénation des tissus et une intoxication du coup par le monoxyde de carbone. C'est finalement le résultat de la compétition entre le monoxyde de carbone et l'oxygène, en deux mots, quoi.
Alors Agnès Verquier, on en parlait tout à l'heure, l'un des principaux freins à la lutte contre ces intoxications, c'est que c'est un gaz qui est invisible et inodore. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Donc, la particularité de ce gaz, c'est d'être imperceptible. Donc, quand effectivement un appareil à combustion fonctionne mal, il dégage du monoxyde de carbone et les personnes dans le logement, dans le local, ne vont pas ressentir la présence de ce gaz. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Anglais l'appellent le silent killer, le tueur silencieux, puisque les personnes ne vont pas du tout percevoir la présence de ce gaz.
Alors, docteur Jérôme Langrand, est-ce que ces intoxications causent toujours la mort? Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres effets lorsque l'on inhale, ce gaz toxique?
Alors, heureusement, non, c'est pas toujours des cas mortels, mais effectivement, une des personnes interviewées connaissait vraiment très bien, et les premiers symptômes sont des symptômes assez courants qu'on pourrait prendre pour autre chose. Donc, les premiers symptômes qu'on va avoir, ça va être des maux de tête, ça va être des vertiges, des nausées, et donc c'est vrai que la survenue de ces symptômes de manière suspecte quand on est à l'intérieur d'un domicile, a fortiori quand plusieurs personnes ont des symptômes en même temps, il faut pouvoir penser que ça peut être du monoxyde de carbone. Parce que, effectivement, on peut facilement passer à côté de cette intoxication et puis penser que c'est autre chose, qu'on a un épisode viral, oui, une sorte de grippe. Enfin, on peut facilement passer à côté en pensant que c'est autre chose. Donc, effectivement, les symptômes les plus fréquents, c'est vertige, maux de tête, nausées, ça commence par ça, et évidemment ensuite ça peut se compliquer, hein, comme ça a été dit, avec des cas avec une plus grande gravité sur le plan neurologique, et puis allant jusqu'au décès malheureusement dans très fréquemment, puisque tous les ans encore effectivement on a des décès liés à ces accidents.
Alors Agnès Verquier, est-ce que toutes les régions de France sont impactées de la même manière? Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres? Est-ce qu'il y a des couches de la population qui sont plus impactées que d'autres?
Alors en France, il y a donc une région qui est plus concernée par les intoxications au monoxyde de carbone, c'est la région des Hauts-de-France,
oui,
pour plusieurs raisons. D'abord, des raisons historiques, puisque c'est une région anciennement minière.
Oui.
Donc, les logements sont très souvent équipés de poêles à charbon. Ensuite, vous avez des raisons climatiques, puisque l'hiver est plus long.
Il
fait plus froid, donc on se chauffe plus longtemps. Et aussi, il y a effectivement des raisons un peu socio-économiques où on a une population assez défavorisée. Ceci dit, les intoxications au monoxyde de carbone concernent toutes les classes sociales, puisque en fait, ce qui va être à l'origine, c'est, comme vous le disiez le plus fréquemment, un dysfonctionnement de l'installation de production de chauffage et d'eau chaude, c'est-à-dire les chaudières ou les chauffe-eau raccordés. Et donc, si on néglige l'installation ou la révision de ces appareils, ils s'encrassent ou pour des raisons de vétusté, ils vont produire du monoxyde de carbone. Donc là, on a fait une étude justement sur les déterminants socio-économiques des ménages intoxiqués et on a vu que toutes les classes sociales étaient concernées par ces intoxications. Région la plus concernée, c'est l'Île-de-France.
Oui, oui.
D'abord parce que il y a
la
concentration de population. Oui. Et on a aussi dans les logements parisiens des chaudières qui sont raccordées à des conduites de fumée, mais dans les immeubles haussmanniens, les vieux immeubles, donc des conduits qui parcourent tout l'immeuble et qui sont rarement ramonnés.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a justement des appareils qui sont plus concernés que d'autres ?
Alors la première source d'intoxication au monoxyde de carbone, ce sont les chaudières, mais les études ont montré qu'il y avait de nombreuses autres sources d'intoxication, comme des appareils, comme des chauffages d'appoint mobiles, les cheminées, les braseros barbecue, les groupes électrogènes. Il ne faut pas oublier les moteurs de voiture. Oui. Si on laisse fonctionner, marcher sa voiture dans un garage, il va, au bout d'un certain temps, assez rapide, dégager du monoxyde de carbone et intoxiquer les personnes présentes dans la pièce.
Alors, les personnes que vous recevez au centre antipoison ou à l'hôpital, docteur Jérôme Langrand, elles ont été intoxiquées par quel appareil principalement?
Bah, écoutez, on a tout, hein. C'est-à-dire que on a effectivement, comme ça vient d'être dit, une surreprésentation habituelle des chaudières à gaz, mais en tout cas, il y a d'autres sources et il faut aussi bien connaître ces autres sources, notamment parce que certaines sont très fréquemment à l'origine de cas graves, notamment dans ce que Agnès Herrier disait à l'instant, il y a les braseros. Les barbecues, enfin les braseros qui peuvent être rentrés en intérieur par des gens, notamment des gens qui voilà voient arriver la facture d'électricité parce que et qui anticipent le fait qu'ils pourront pas la payer, du coup qui rentrent plutôt les braseros à l'intérieur des logements pour pouvoir se chauffer. Oui. Ça, c'est à l'origine d'intoxication dramatique. Hein, c'est vraiment très 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 émissif de monoxyde de carbone. On a des gens qui ne se réveillent pas, hein, ou alors qui se retrouvent avec des intoxications qui sont sévères, avec des séquelles possibles. Voilà. Donc effectivement, certaines sources sont toutes les sources d'intoxication sont à risque, mais certaines le sont un peu plus que d'autres, on va dire, ouais. Avec les braseros notamment, les charbons, les barbecues, et puis également les engins à moteur thermique, par exemple, rentrer un groupe électrogène à l'intérieur d'un domicile, ou alors ce qu'on a vu avec, à l'époque, des crues de la Seine, les gens qui avaient utilisé des pompes pour sortir l'eau des caves, des pompes à moteur qui mettaient dans des caves, du coup, en milieu confiné, on s'est retrouvé avec une épidémie comme ça d'intoxication, et ces intoxications sont souvent graves. Quand il s'agit de braseros, de barbecues, de groupe électrogène, d'engins à moteur qu'on rentre en intérieur, là, il faut s'attendre à des cas qui sont particulièrement sévères, et notamment des décès, voilà. Donc ça, effectivement, ces cas-là sont particulièrement à risque.
Alors, il y a un auditeur qui nous rejoint à Standard Africa Radio. Ah, il a raccroché, donc Andy, si vous voulez nous rappeler, n'hésitez pas à le faire. Alors, quels sont, docteur, les symptômes d'une intoxication par le monoxyde de carbone? Vous en parliez tout à l'heure, hein, les maux de tête, les céphalées, mais voilà. Qu'on puisse bien comprendre, en fait, oui. À partir de quand il faut s'inquiéter, quand c'est possible?
Quand on a des symptômes qui surviennent, qui sont les symptômes, c'est maux de tête, vertige, nausée. Ça commence par ça. Donc, ces symptômes, ils sont très fréquents, ils peuvent arriver dans plein d'autres maladies, mais quand on peut y penser, quand ils surviennent, quand on est dans son domicile, surtout si jamais plusieurs personnes ont les mêmes symptômes, si jamais les symptômes s'améliorent quand vous partez, recommencent quand vous revenez, là, il faut vraiment penser immédiatement au monoxyde de carbone, et donc appeler, si jamais vous avez une source de monoxyde de carbone, une chaudière à gaz, et que vous avez ces symptômes-là, il faut absolument faire venir les pompiers pour qu'ils puissent tester la présence de monoxyde de carbone chez vous et mettre en sécurité si jamais effectivement il y a bien un dégagement de monoxyde de carbone.
À partir de quelle quantité est-il mortel ce gaz?
C'est fonction non seulement de la quantité mais de la durée d'exposition. Par exemple, une durée d'exposition longue à une quantité plus faible peut être tout à fait dangereuse, où on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 500 ppm de monoxyde de carbone chez soi pour qu'il y ait un risque. Même à des niveaux plus bas, ouais. Si jamais on en respire pendant assez longtemps, et ben le risque est tout à fait présent. Donc on peut difficilement donner un seuil à partir duquel il n'y a pas de risque. Quoi.
Et justement, les enfants sont-ils plus sensibles à ces intoxications?
Alors oui, les enfants sont plus sensibles parce que sur le plan neurologique, ils vont avoir des, on peut avoir des effets chez eux à des doses qui sont assez faibles, effectivement. Et puis c'est encore plus vrai des enfants qui sont pas encore nés, puisque et c'est pour ça que les populations sensibles, c'est non seulement les enfants, mais également les femmes enceintes,
oui.
Parce que en fait, l'hémoglobine du fœtus n'est pas la même que celle de l'adulte et elle fixe encore mieux le monoxyde de carbone que celle des adultes. Donc du coup, quand une femme enceinte est exposée au monoxyde de carbone, même si elle n'a aucun symptôme, il est possible que son enfant ait une intoxication en cours. Donc il faut vraiment se méfier particulièrement des sources de monoxyde de carbone qui pourraient être dans l'environnement d'une femme enceinte, puisque ça peut vraiment impacter son enfant, qui fixe beaucoup mieux et qui est beaucoup plus sujet à l'intoxication au monoxyde de carbone que sa mère.
Agnès Verrier, que faire en cas d'urgence lorsque l'on détecte tous ces signes et qu'on se dit « Ah là, il y a un souci », comment doit-on réagir ?
Alors, tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est aérer, donc ouvrir les fenêtres, les portes.
Ouais.
Si on peut, si l'appareil est accessible, on l'éteint, mais ce n'est pas la priorité. La priorité étant d'aérer, de sortir et d'appeler les secours. Donc signaler ce qu'il se passe, et en général les pompiers ou les SAMU sont très au fait des intoxications au monoxyde de carbone, et si vous décrivez précisément la situation, ils vont vous interroger sur la présence ou non d'un appareil susceptible de produire du monoxyde de carbone, et ils vont vous donner les consignes avant d'arriver sur place.
Quelle est rapidement, en quelques mots, la prise en charge lorsque les personnes intoxiquées arrivent à l'hôpital, docteur ?
C'est de l'oxygène avant tout, puisque le but étant de reprendre la place que le CO a prise sur le sang. Donc du coup, c'est le but d'urgence, c'est de réoxygéner les gens pour limiter en fait les risques de complications, notamment sur le plan neurologique et cardiaque, qui sont en fait les organes qui ont le plus besoin d'oxygène. Donc ce sont les deux premiers à souffrir, hein, donc le cœur et le cerveau en gros. Et donc on remet de l'oxygène à forte concentration si c'est nécessaire, voire même en caisson hyperbare pour les cas les plus graves, pour surtout voilà antagoniser ces effets du manque d'oxygène créé par l'intoxication.
Alors, les conseils aux auditeurs qui nous écoutent pour éviter ces risques d'intoxication au monoxyde de carbone, c'est réviser aussi régulièrement vos installations. Combien de fois faut-il réviser, Agnès Verrier ?
Alors, il y a une obligation réglementaire. On doit faire réviser sa chaudière une fois par an par un professionnel qualifié. Donc, qui va vous remettre une attestation d'entretien.
Ouais.
Donc ça, c'est important de souligner le fait qu'il faut vraiment faire appel à un professionnel qualifié qui va vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Lorsque vous avez un appareil raccordé à un conduit de fumée, il ne faut surtout pas oublier de faire un ramonage mécanique aussi par un professionnel,
ouais.
Pour que justement les gaz brûlés s'évacuent le mieux possible. Et aussi quand on installe une chaudière, il faut aussi demander une attestation de conformité de l'installation qui va vous garantir le bon fonctionnement de l'appareil.
Alors, est-ce qu'il existe, comme les détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone ? Et est-ce qu'ils sont recommandés s'il en existe ?
Alors, il existe des détecteurs de monoxyde de carbone. Des études ont été montrées, que ces appareils n'étaient pas fiables dans la durée. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les autorités ne recommandent pas l'installation de cet appareil et priorisent la bonne installation et le bon entretien des chaudières.
Un mot peut-être, docteur Jérôme Langrand, à ce sujet ?
Oui, bon, c'est tout un débat effectivement sur la place des détecteurs de monoxyde de carbone, puisqu'en fait, effectivement, comme ça vient d'être dit, ils ont des défauts et parfois ils sonnent pour rien. Il y a une vraie question de fiabilité dans le temps. Ouais. Et pour autant, effectivement, on trouve également des cas où le détecteur a sonné et a pu mettre en évidence la source de CO qu'on n'aurait pas, à laquelle on n'aurait pas pensé immédiatement. Ouais. Donc c'est vrai qu'on ne peut que, effectivement, la recommandation aujourd'hui n'est pas de systématiser l'utilisation par tout le monde. Néanmoins, voilà, effectivement, ces appareils ont tout de même un intérêt dans le sens où voilà, malgré leurs défauts, on observe quand même des cas où ils permettent d'identifier une situation à risque qui aurait peut-être été détectée plus tard. Donc c'est vrai que on peut avoir des avis partagés.
Ouais.
Moi voilà, je inciter à ce que tout le monde s'en équipe, peut-être on n'en est pas là effectivement pour ces raisons de fiabilité. Néanmoins, ça peut être une sécurité quand on a des installations au gaz.
Alors, il reste juste quelques minutes, je vais vous laisser conclure. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette émission? Quels sont les derniers conseils que vous avez envie de donner aux auditeurs, parce qu'il fait de plus en plus froid, et donc je pense que ce sont des périodes où il y a des cas d'intoxication. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs pour terminer, docteur Jérôme Langrand?
Surtout de savoir y penser, hein, puisque quand on a ces symptômes-là, de savoir appeler les pompiers pour penser en se disant « Ah, c'est peut-être une intoxication », ça c'est vraiment quelque chose d'important. Surtout de pas faire les grosses erreurs, c'est-à-dire ne pas ramener de bras zéro à l'intérieur, parce que trop de cas dramatiques.
Les bras zéro, en fait, c'est quoi exactement un bras zéro?
Voilà, vous savez, c'est des sortes de réceptacles, de récipients dans lesquels on met des charbons, en fait, qui se consument.
Ouais.
Et qui réchauffe la pièce. Et donc, effectivement, ça dégage énormément de monoxyde de carbone. Ça donne des cas dramatiques. Vraiment, évitons ces cas facilement évitables, dramatiques. Donc, pas de bras zéro, ni d'engins à moteur thermique, de groupes électrogènes, de choses comme ça, à l'intérieur des maisons. Parce que vraiment, c'est des décès facilement évitables. Vraiment ça. Et puis, pensez à faire l'entretien de sa chaudière, non seulement du brûleur, mais effectivement, comme l'ingénieur Lier l'a dit, de la partie évacuation, qui peut également être à l'origine du dysfonctionnement de la chaudière.
Je vais vous laisser la conclusion finale, Agnès Verrier, que vous avez envie de dire pour terminer.
Oui, je voudrais juste ajouter une petite précision pour les groupes électrogènes, parce que on observe souvent des intoxications parce que les groupes électrogènes sont placés dans le garage, dans le sous-sol, pensant que ces pièces annexes du logement vont épargner le logement de présence de monoxyde de carbone. Or, c'est une des sources fréquentes d'intoxication.
D'accord.
Le groupe électrogène, c'est dehors, à l'extérieur. Ensuite, il ne faut jamais boucher les ouvertures, les bouches d'aération, parce que un élément essentiel, c'est la bonne ventilation, la bonne aération du logement pour permettre une combustion complète, du gaz, du charbon ou du bois. Et je pense que effectivement, une recommandation qu'on a déjà évoquée, c'est aérer tous les jours votre logement au moins 10 minutes pour faire circuler l'air dans votre logement.
N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Santé publique France, puisqu'il y a également une partie qui concerne les dangers du monoxyde de carbone pour mieux comprendre. Donc n'hésitez surtout pas, il y a aussi un dépliant à télécharger sur www.prévention-maison.fr. Merci à tous les deux de vous être rendus disponibles aujourd'hui. Agnès Verrier, je rappelle que vous êtes chargée d'expertise en santé et environnement à Santé publique France. Docteur Jérôme Langrand, vous êtes chef de service au CHU Lariboisière et au Centre Antipoison de Paris. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. À très bientôt. Dans un instant, la pause, et c'est Ambiance Africa qui démarre juste après.